Société Santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de la douleur à l'occasion de la journée mondiale avec le docteur Alain Séry, qui est président de Douleurs sans frontières, Pascal Thibault, qui est cadre supérieur de santé, et Martine Chauvin, qui est une patiente douloureuse, également présidente de l'association francophone pour vaincre les douleurs. Et nous terminerons en parlant de la recherche sur le vaccin contre le sida. Nous avons maintenant au téléphone le docteur Angelina Adia, qui est médecin à l'hôpital central de Maputo, qui est le CHU, le centre hospitalier universitaire. C'est là qu'une unité douleur a démarré il y a 2 ans. Docteur Angelina Adia, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. Vous parlez français parce que vous revenez d'avoir passé 1 an en France pour faire un diplôme universitaire justement sur la douleur. Je voudrais d'abord savoir qui sont les malades que vous prenez en charge à Maputo dans cette unité contre la douleur.
Bon, ici, nous avons 2 types de douleurs chroniques. La douleur chronique oncologique et la douleur chronique non oncologique. Dans la douleur chronique oncologique, nous avons des patients qui ont des douleurs très importantes en état avancé de cancer. Et dans la douleur non oncologique, nous avons la douleur rhumatologique. Nous avons aussi la douleur lombaire et la sciatalgie. Aussi, la douleur du sida est celle qui est induite par le traitement antirétroviraux, la douleur diabétique, la douleur du zona et les céphalées, surtout la migraine.
Et quels sont les traitements dont vous disposez pour soulager toutes ces douleurs?
Bon, nous avons ici les traitements médicamenteux et les traitements non médicamenteux. Dans le traitement médicamenteux, nous avons dès les analgésiques faibles comme le paracétamol jusqu'à les analgésiques fortes, des opioïdes comme la morphine. Et aussi les adjuvants qui sont des médicaments qui sont associés pour traiter quelques types de douleurs, qui sont les antidépresseurs et les antiépileptiques. Et dans le traitement non médicamenteux, nous avons la neurostimulation transcutanée, qui sont des électrodes qu'on met dans la peau pour traiter la douleur, et aussi la psychothérapie.
Je suis presque surprise parce que vous avez finalement tous les derniers traitements, les traitements de pointe. Pour nous, c'est presque une surprise de savoir que vous avez ça à Maputo. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Est-ce que c'est le fait, par exemple, que ces traitements sont chers? Est-ce que c'est la disponibilité de ces traitements? C'est quoi pour vous les principales difficultés?
Bon, notre problème est le suivant. Pour commander des médicaments, il faut savoir à l'avance ce dont nous aurons besoin. Mais lorsque nous avons de nouvelles formations, nous demandons de nouveaux médicaments. Et c'est justement là qu'il recommence les difficultés de prévision. Il faut impérativement que nous formions les professionnels de santé à la douleur. Là aussi, c'est un vrai problème.
Je voulais faire rebondir tout de suite, si vous le voulez bien, Pascal Thibault, qui est cadre supérieur de santé et qui m'a dit au cours de l'émission, il faut absolument qu'on parle de la formation. Effectivement, même en France, c'est aussi le gros problème. Il faut former médecins, infirmières.
Oui, il faut former et on pouvait penser peut-être avec les premiers plans de lutte contre la douleur qu'à un moment on arriverait à saturation et en fait on se rend compte qu'il faut former tout le temps et que même quand les gens ont été formés, il faut rappeler, il faut réinsister.
D'ailleurs, il y a encore un déficit de formation en France.
Il y a encore un gros déficit de formation.
Docteur Alain Séry, vous atterrissez vraiment ce matin du Mozambique. Hein. Vous étiez avec le docteur Angelina Nadia pendant tout le week-end. Oui. C'est absolument extraordinaire ce qui se met en place là au Mozambique. Étonnant pour un pays en développement, je pourrais presque dire ça.
Je suis vraiment enthousiaste sur l'avenir car ils font en quelques années ce que nous avons mis 25 ans à faire. J'y étais avant-hier pour... organiser le diplôme universitaire. Nous avons vu donc le contenu pédagogique, le programme des cours qui sera donné en langue portugaise. Et ils ont la volonté de faire des spécialistes de la douleur, des médecins spécialistes de soins palliatifs et de douleur, ce que nous n'avons pas encore en France. Donc vraiment,
c'est toujours pas considéré comme une spécialité en France.
Non, c'est pas considéré comme une spécialité. C'est une compétence, mais il n'y a pas, comme les cardiologues ou les chirurgiens ou les rhumatologues, des spécialistes de la douleur et de soins palliatifs. Ça va le devenir. Ça va le devenir et très probablement, ça va commencer par le soin palliatif et dans l'année 2010.
Alors, vous avez vu ce CHU à Maputo, cette unité contre la douleur, c'est ultra moderne.
Alors, c'est 300-400 mètres carrés qui ferait rougir de plaisir dans n'importe quelle équipe douleur en France, avec des lits, avec du matériel, avec des gens donc compétents qui ont été formés, puisqu'on a commencé la formation il y a 12 ans au Mozambique. Hein. Donc, il y a plusieurs promotions qui ont été formées. Et puis, le docteur Angelina Dia, Margarita, sont venus, et Margarita, qui est infirmière, sont venus en France pendant un an dans les hôpitaux parisiens et ont passé avec succès, d'ailleurs, elles étaient parmi les premières, le diplôme universitaire de prise en charge de la douleur.
Docteur Alain Séry, justement, le docteur Angelina Dia l'a dit, le plus gros problème, finalement, c'est l'approvisionnement, c'est pas le coût. Moi, j'imaginais que c'est cher pour les patients. On fait comment quand il n'y a pas de sécu? Il y a une sécu, d'ailleurs, au Mozambique?
Non, le problème, c'est et on le retrouve dans tous les pays d'Afrique. Il y a 32 pays d'Afrique qui ont des difficultés pour s'approvisionner en morphine. C'est relativement simple à comprendre. Et parmi ceux-là, il n'y en a que 12 qui ont de la morphine en comprimé. Il n'y a que 12 pays d'Afrique qui ont de la morphine en comprimé, le reste, ils l'ont en injectable. Alors le circuit, c'est simple. Il faut former les gens, ça a été dit, Angelina Dia, le docteur Dia l'a dit, si on forme les gens, ils vont prescrire. Les médecins ne sont pas formés, donc ils ne prescrivent pas. Donc le pharmacien, dans son établissement, n'a pas de morphine. Donc la Direction Générale de la Santé et la Pharmacie ne commande pas de morphine aux narcotiques burodiennes. Et on tourne en rond. Donc la difficulté, c'est l'approvisionnement, la difficulté, c'est la formation des gens, c'est le suivi des patients aussi, parce que le Mozambique est un pays très grand, il est en longueur, il y a 2000 kilomètres, et donc ceux qui sont dans les campagnes n'ont pas forcément accès. Et puis il y a aussi le fait que, c'est un peu ce qu'on rencontre aussi dans la trithérapie, les patients atteints de sida pensent qu'un traitement d'une semaine, ça suffit et c'est terminé. Et puis après, il y a des problèmes économiques, certains vont revendre leurs médicaments donc pour nourrir leur famille. Donc il y a tout un problème de suivi. Et je crois que c'est le suivi et la formation, la pierre angulaire, c'est ça.
Et est-ce qu'il y a un risque d'accoutumance? On entend toujours parler de ça quand on parle de morphine.
Il y a un risque d'accoutumance, oui. Et l'accoutumance, c'est quoi? C'est pas un risque, d'ailleurs. C'est pas un risque, l'accoutumance. L'accoutumance, c'est quoi? C'est la nécessité d'augmenter de dose pour avoir le même effet. Alors, quand on a un cancer, la tumeur augmente, donc on a une augmentation des besoins en produits morphiniques. Mais ça n'est pas le problème des toxicos. Les toxicos, c'est autre chose. Ils recherchent le blush, le flash au moment de l'injection du produit. C'est pas du tout pareil. C'est comme si un niveau de douleur, on a besoin d'un niveau de morphine. Et quand il n'y a pas de douleur, ça, c'est le problème du toxico. Alors là, il y a la dépendance physique, psychique, le besoin impérieux de se procurer de la drogue. Mais si vous voulez bien, j'ai deux témoignages qui sont rapportés par Human Rights Watch, c'est-à-dire les droits, une association sur les droits de l'homme. Et un, ça met en évidence le fait que les patients ne sont pas bien pris en charge. Et le deux, c'est le médecin qui ne sait pas trop quoi faire. Alors ça, c'est une petite annonce qui a été publiée dans un journal colombien en septembre 2008 par la mère d'une femme atteinte d'un cancer du col de l'utérus, et dans le journal El País à Cali. Et elle dit: le cancer nous tue. La douleur me tue parce que depuis plusieurs jours, je n'ai pas pu trouver de morphine injectable. S'il vous plaît, monsieur le secrétaire d'État de la Santé, ne nous laissez plus souffrir. Donc on voit bien là le problème. Et puis la réponse, elle vient de l'hospice de Nairobi. C'est un hospice, donc le principal hospice du Kenya. Les médecins ont peur de la morphine. Les docteurs au Kenya sont tellement habitués aux patients qui meurent dans la douleur qu'ils pensent que c'est comme ça qu'on doit mourir. Ils sont méfiants si vous ne mourrez pas comme ça et pensent que vous êtes mort prématurément. Donc on voit bien là qu'il y a une sensibilisation, des obstacles à franchir. La formation, elle est essentielle en France, mais aussi dans les pays du Sud.
Et d'ailleurs, vous avez lancé une pétition.
Oui.
Parce que vous parliez justement de droits de l'homme.
Oui. Oui, parce que dans les droits de l'homme, il y a l'article 14, 17 et 18 qui disent que le fait de pouvoir circuler, communiquer et penser, réfléchir sont des droits inaliénables de l'homme. Et bien la grande douleur, celle qui fait qu'on est en atonie psychomotrice, c'est-à-dire qu'on peut plus bouger, on ne peut plus réfléchir, c'est une atteinte des droits de l'homme. Et donc nous avons lancé cette pétition sur douleur.org, douleur.org, et ceux qui nous écoutent peuvent venir nous soutenir. Il y a une centaine de personnalités françaises, dont Bernard Kouchner bien sûr, les ministres de la Santé, des artistes, des grands médecins, et puis on a besoin de tous. Et quand on aura 15-20 000 signatures, à ce moment-là, la France portera ça à l'Organisation mondiale de la Santé et à l'Assemblée générale des Nations Unies pour un vote de résolution.
Docteur Angelina Dia, merci. Je rappelle que vous êtes médecin à l'hôpital central de Maputo, au CHU, dans une unité de douleur qui a démarré il y a 2 ans.
Priorité santé sur RFI.
Aujourd'hui, nous parlons donc de la prise en charge de la douleur et nous avons Idriss qui nous appelle de Bamako au Mali. Idriss, bonjour.
Bonjour, père.
Nous vous écoutons.
Bonjour, père. Bonjour, docteur. Bonjour à toute l'équipe RFI. C'est le lutteur. Bonjour. Ma question est la suivante. La douleur reste-t-elle une manifestation préalable des décès? Et si oui, comment peut-on abréger cette douleur? Merci.
Alors, docteur Alain Séry, est-ce que la douleur est absolument, je dirais, entre guillemets, indispensable avant de mourir? Est-ce qu'elle est toujours liée? Vous l'évoquiez d'ailleurs tout à l'heure.
Non, vous savez, mourir dans son lit en s'endormant le soir, ça arrive quand même. C'est pas forcément la mort dans des douleurs insupportables. Par contre, quand c'est le cas dans le cadre du sida, dans le cadre du cancer, dans le cadre dans tous les autres cas, nous avons les moyens, il faut absolument prendre en charge cette douleur, elle n'a plus rien d'utile. On parlait tout à l'heure de la douleur signal d'alarme qui signe une agression, celle-là, elle n'a plus rien d'utile et il y a les moyens qui sont des moyens donc simples et il n'y a pas de raison qu'on mette en œuvre ces moyens dans le nord et pas dans le sud. Il faut respecter les coutumes, il faut respecter les religions, il faut respecter aussi la fin de vie. La vie, la mort fait partie de la vie.
Et vous avez prouvé avec ce que vous faites au Mozambique et au Cambodge que c'est possible dans les pays en développement de prendre en charge cette douleur.
Absolument.
Alors que jusqu'à maintenant on vous disait c'est un luxe.
Absolument. Absolument.
Pascal Thibault, je voudrais que vous nous parliez un peu de la réaction des patients une fois que leur douleur est prise en charge. Parce que c'est vous qui les voyez, je dirais, changer de tête.
Oui, alors moi j'ai plutôt une expérience auprès d'enfants et de leurs familles et je pense que effectivement ça change complètement le quotidien. C'est vrai que aujourd'hui j'ai un peu élargi mon champ d'action, mais quand on a un enfant qui est, comme le disait Alain Séry tout à l'heure, en atonie psychomotrice complète, qui n'a plus aucune relation avec ses proches, avec les infirmières, et puis tout d'un coup, grâce au traitement, on le voit recommencer à jouer, pouvoir avoir une fin de vie, hein. Il y a aussi des enfants en soins palliatifs, mais pouvoir avoir une fin de vie la plus normale possible, effectivement, ça change tout. Moi, j'ai connu des enfants qui partaient en vacances avec leur famille, avec de la morphine, avec des relais.
Mais vous l'avez dit, la morphine ne suffit pas. Tout ce qui est autour, tout ce qui est non médicamenteux est aussi important. Tout ce qui est relaxation, effectivement, ça aide, hypnose, toutes ces choses-là.
Alors,
écrit un ouvrage sur ce sujet. aux éditions Masson.
J'ai co-écrit un ouvrage qui s'appelle Les pratiques psychocorporelles avec Isabelle Célestin, parce qu'effectivement, elle, en tant que psychologue et moi en tant qu'infirmière, nous savons que la manière dont nous sommes en relation avec les patients est fondamentale et que ces méthodes vont accompagner y compris la conviction qu'on va mettre dans les médicaments et dans l'information, l'éducation des familles, dans les temps que les gens vont pouvoir retrouver, comme le disait Mme Chauvin tout à l'heure, les temps de plaisir et d'un corps qui n'est plus douloureux.
Martine Chauvin, vous faites aussi appel à toutes ces méthodes pour vous ?
Oui, mais j'ai fait appel à ces méthodes sans savoir que c'était ces méthodes, parce que c'est vrai que quand j'étais dans mon lit, en souffrance, quand j'étais vraiment en souffrance, j'avais pas de moyens, je m'imaginais prendre ma douleur et la mettre à côté du lit. Et ça, combien de fois je l'ai fait, et réellement,
ça marche.
Pendant ce temps-là, c'est vrai que c'est très court, bien entendu, mais pendant ce temps-là, on a moins mal.
Vous vouliez dire quelque chose, docteur Alain Séry?
Non, pas du tout.
J'étais
en train d'écouter et je suis Martine tout à fait Chauvin. D'accord avec ce qui vient d'être dit.
Martine Chauvin, vous, je l'ai dit, vous êtes présidente de l'association francophone pour vaincre la douleur. Que fait cette association? Vous réunissez des patients, justement?
Oui, on réunit les patients. D'abord, on cherche à se faire connaître. Et ce qu'on souhaite faire, tout d'abord, c'est travailler en étroite collaboration avec donc tous les médecins, avec les sociétés savantes, avec l'État, avec les patients, parce que les patients ont une grande part, un grand rôle à jouer dans la prise en charge de la douleur. Donc tous ensemble, moi je dis qu'il n'y a que comme ça, c'est tous ensemble qu'on arrivera à faire de belles choses.
Et ces patients ont du mal à avoir un rendez-vous justement dans un centre antidouleur ?
Du mal non, mais c'est un peu long.
C'est un peu long, c'est combien de temps?
C'est-à-dire qu'au mieux, franchement, en province, au mieux c'est 2 mois, et au pire c'est 3 mois, 3 mois et demi.
Docteur Alassery, c'est un vrai problème.
C'est 3 à 4, voire 5 mois. Ça, c'est un réel problème. Parce qu'une consultation de la douleur, ça dure longtemps. C'est-à-dire, la première consultation dure plus d'une heure. Parce qu'il faut comprendre comment le patient vit, il faut comprendre des répercussions psychologiques, souvent de type dépressif, parce que c'est la règle, mais aussi toutes les répercussions. Et puis après, le programme de soins sera personnalisé, il sera individuel, et on fixera des objectifs à atteindre, mais qui ne sont pas forcément ambitieux, mais des objectifs qu'il faudra, et on va tout mettre en œuvre, les moyens qui ont été dits, donc médicamenteux et non médicamenteux, et puis aussi les moyens comme la stimulation externe et interne, tout ce que nous avons à notre disposition, et aucun malade n'est comparable, il n'y a pas une douleur mais des douleurs, et il faudra s'adapter à la douleur de chacun.
Et vous avez besoin des associations de patients.
C'est essentiel. Comment le patient, c'est le centre. Donc si on n'a pas avec nous le patient, ça ne sert à rien. Ça veut dire donc qu'on passe à côté, qu'on n'a pas un langage très clair. Il faut que les patients soient partie prenante de toutes les... Et puis, alors en plus, quand on écrit à un ministre en tant que médecin, les réponses sont longues à venir. Quand c'est une association de patients, je peux vous dire que c'est dans les 48 heures.
Ça marche mieux. Pascal Thibault, vous voulez réagir ?
Oui, je voulais réagir parce qu'effectivement, je pense qu'on doit travailler ensemble et que je pense aussi que les infirmières peuvent être un bon relais dans ces suivis. Et c'est vrai qu'au Centre National de Ressources de Lutte Contre la Douleur, nous avions de temps en temps des témoignages sur le site, puisqu'il est libre d'accès, avec des gens qui ont quand même du mal encore à avoir accès à ces consultations spécialisées. Bonjour, et des médecins qui traînent quelquefois.
J'aurais un message dans ce sens-là, c'est que chaque patient qui souffre doit communiquer et doit insister auprès du médecin qui a la souffrance, se faire écouter. Et là c'est la première des choses, c'est vis-à-vis du médecin, après, c'est écouter le patient.
Et vous, avec votre association, vous soutenez les patients dans cette démarche,
bien sûr,
justement.
Oui.
Docteur Alassery, vous avez publié Vaincre la douleur aux éditions Michel Lafon. Je voudrais qu'on fasse un point sur les recherches dans ce domaine. Est-ce qu'on progresse? On l'a vu avec le matériel qu'utilise Martine, mais est-ce qu'on progresse aussi dans les médicaments, dans les traitements?
C'est un peu décevant. Il n'y a pas de grande révolution dans le médicament. La morphine, c'est pas récent. Le paracétamol, ça a 200 ans. Par contre, on progresse du point de vue médicament, c'est la voie d'administration. Alors c'est vrai que, par exemple, les douleurs aiguës des cancers, il faut des produits qui agissent rapidement et vont arriver en France et en Europe, des produits en spray nasal, comme pour les patients qui ont de l'asthme. Eh bien, les patients qui auront une douleur pourront prendre une bouffée de spray nasal et avoir une réponse dans les 2 minutes, et cette réponse va durer 4 heures. Donc, pas de recherche de nouveaux médicaments extraordinaires en dehors d'un ou deux qui peuvent être intéressants, comme des tissus gels d'anesthésiques locaux ou comme d'autres produits de ce type-là. Mais les voies d'administration vont permettre d'être plus efficaces rapidement.
Mais la recherche continue dans ce domaine.
Oui, bien sûr.
Si vous le voulez bien, on va terminer en parlant de la recherche sur le vaccin contre le sida. Vous l'avez dit, le sida dans les pays en développement est une source de douleur très importante. On l'a bien vu à Maputo, ça fait partie de la prise en charge.
Priorité santé, Claire Hédon.
Je vous propose de terminer en faisant le point sur la recherche sur le vaccin contre le sida à l'occasion de la conférence internationale AIDS Vaccine 2009 qui se déroule en ce moment et jusqu'au 22 octobre à Paris. Nous avons au téléphone le professeur Yves Lévy. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la recherche vaccinale contre le VIH à l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales, l'ANRS. Vous êtes également vice-président de cette conférence. Alors tout d'abord, on en est où de cette recherche sur le vaccin? On a eu l'impression qu'on avançait un peu avec ce qui s'est passé entre autres en Thaïlande.
Oui, bah écoutez, cette conférence est l'occasion pour nous de faire le point où nous en sommes. Et comme vous l'avez dit, effectivement, au mois de septembre, nous avons entendu des résultats d'un essai à très large échelle qui sont encourageants et que l'on va analyser, disséquer plus dans le détail maintenant pendant ces 3-4 jours.
Quels sont les projets les plus avancés?
Écoutez, il y a plusieurs projets à travers le monde sur différents groupes de recherche et institutionnels comme nous à l'ANRS qui évaluent aujourd'hui des candidats vaccins. Et donc, il y a une trentaine de candidats vaccins actuellement en test dans le monde. Et les résultats de cet essai à large échelle que nous avons entendu, ce sont deux candidats vaccins, je dirais peut-être de la première génération des vaccins, qui certes ont montré un résultat intéressant mais très modeste. Et donc, ceci prouve, si vous voulez, qu'il n'est pas impossible aujourd'hui éventuellement de mettre au point un vaccin qui protégerait contre l'acquisition du VIH, mais que nous avons beaucoup de progrès à faire et peut-être que les outils que nous avons aujourd'hui eh bien, seront les outils qui donneront éventuellement des candidats vaccins intéressants demain.
Quels sont les obstacles à la mise en place de ce vaccin? J'ai envie de dire, pourquoi c'est si compliqué?
Bien écoutez, parce que d'abord, c'est la première fois qu'on a ce type de défi contre ce type de virus. Nous n'avons jamais mis au point de vaccin contre ce type de virus qui a des particularités. Premièrement, il infecte très rapidement dans des endroits, dans les muqueuses, c'est là où le virus entre, et nous ne savons pas facilement mettre au point des vaccins qui protègent au niveau des muqueuses. Deuxièmement, en une minute ou en une heure, ce virus entre dans les cellules et reste enfoui, caché dans les cellules et se dissémine dans l'ensemble de l'organisme. Donc vous voyez qu'il faut, le temps pour agir est extrêmement court. Et puis il y a une grande variabilité de ce virus à travers le monde et même chez des personnes infectées. Donc il y a beaucoup de défis qui sont tout à fait nouveaux pour nous. Et même si nous travaillons dessus depuis 20 ans, eh bien nous n'avons pas trouvé encore les clés.
Êtes-vous confronté à un manque de moyens financiers sur cette recherche sur le vaccin?
Écoutez, les moyens sont très importants, mais ne sont pas tout. Il nous faut des pistes scientifiques et des hypothèses importantes à tester. Alors, c'est vrai que les résultats de cet essai thaïlandais auquel vous faisiez allusion montrent aujourd'hui qu'il faut accélérer cette recherche. Il faut sûrement aller beaucoup plus vite, puisque maintenant, nous avons un signal et peut-être une route qui n'est pas facile, mais qui est peut-être tracée. Et donc, nous allons avoir besoin de moyens, puisque nous sommes obligés de faire des essais maintenant vraisemblablement à large échelle. Donc, si vous voulez, on est passé, on a changé de braquet là, et on a besoin d'accélérer cette recherche. Donc oui, il faudra des moyens supplémentaires, car il y a plusieurs hypothèses à tester pour être sûr d'améliorer ces résultats.
Avant la publication de ces résultats encourageants en Thaïlande, on avait presque l'impression que les gens qui font de la recherche sur les vaccins commençaient un peu à baisser les bras.
Non, je crois pas. Ça, c'est ce que le public ressent. C'est peut-être après les résultats très négatifs que nous avons eus il y a 2 ans, mais qui étaient un essai. Vous savez, quand on fait un essai, on teste un candidat vaccin. Et ça n'est pas l'échec de la recherche vaccinale, c'est l'échec d'un candidat vaccin. C'est comme si vous testez un médicament et qu'il ne marche pas ou pas suffisamment. Ce n'est pas pour ça que vous arrêtez de chercher un traitement. Et donc, il y a 2 ans, on a eu un signal très négatif avec un candidat vaccin qui ne faisait pas l'affaire. Là, on a un signal positif, mais il va falloir améliorer avant d'avoir un vrai vaccin qui protège l'épidémie. Donc, on ne baisse pas les bras. On a toujours été là. Et la preuve, c'est qu'après 2 ans, eh bien, on a d'autres résultats. Mais vous savez, ce sont de très lourdes machines. Cet essai a commencé en 2003-2004. Vous voyez que c'est 5-6 ans. Mais c'est un vaccin qui a été mis au point dans les années 90. Donc, c'est 10 ans pour venir au niveau d'un essai clinique et peut-être 5-6 ans pour avoir un résultat. Donc, c'est très long.
Professeur Lévy, juste une dernière question. Y a-t-il une véritable, je dirais, un travail ensemble avec tous ces chercheurs sur cette question du vaccin?
Ah oui, absolument. Et ça, je crois que c'est le progrès des 4-5 dernières années. C'est la mise au point au niveau international d'une alliance des différents acteurs institutionnels, politiques, gouvernementaux, recherche et même la communauté des patients qui travaillent et qui essaient de coordonner leurs recherches au niveau mondial. Donc nous partageons des résultats. Bien sûr, il y a de la compétition et ça, c'est excellent pour la recherche. Mais nous partageons les résultats et surtout, nous essayons de mettre au point un plan commun, un plan global pour essayer, chacun avec ses outils et ses moyens, eh bien, de contrer cette infection.
Et c'est ça que vous allez faire justement pendant toute cette conférence internationale. Absolument. Qui démarre aujourd'hui. Professeur Yves Lévy, merci. Je rappelle que vous êtes vice-président de cette conférence. Merci beaucoup de nous avoir consacré quelques minutes pour nous parler de cette recherche sur le vaccin alors que vous êtes justement en pleine conférence. Docteur Alain Séry, je voudrais un mot de conclusion sur cette prise en charge de la douleur. Qu'est-ce qui vous paraît le plus important aujourd'hui? J'ai demandé ça à chacun de mes invités.
Ce qui me paraît le plus important, c'est d'oser. Et je conclurai par une phrase de Sénèque qui dit « Ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile. » Eh bien, je crois que dans les pays du Sud, il y a plus de douleurs que dans les pays du Nord. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de séropositivité, il y a plus de sida. Par contre, il y a autant de lombalgies, de migraines, de douleurs de zona que dans tous les autres pays. Que la douleur, eh bien, c'est une exclusion sociale pour des populations du Sud qui sont déjà en précarité et que ce n'est pas uniquement la victime qui devient victime, c'est l'entourage qui devient victime. Ce n'est pas médicalement acceptable.
Martine Chauvin, pour vous, quelle est l'urgence?
Alors, l'urgence pour moi, c'est, enfin pour moi, pour nous, hein, les patients, c'est de reconnaître réellement ce syndrome douloureux chronique comme une maladie, parce que c'est une réelle maladie. Comme le disait le docteur Séry, c'est quelque chose qui détruit une vie, hein, sociale, professionnelle. On est licencié parce qu'on est en invalidité, on peut plus. Et donc ça, c'est reconnaître cette maladie-là comme ce syndrome comme une maladie. Et puis surtout dire aux patients, enfin moi c'est un message, c'est dire aux patients de ne jamais baisser les bras. Aller plus loin, aller plus haut, aller plus fort et puis on vaincra cette douleur qui vous ennuie.
Et c'est ça, on l'a bien vu avec vous, c'est pas parce qu'un premier médecin vous a dit en gros il n'y a rien qu'il ne faut pas persévérer et aller voir celui qui va prendre en charge votre douleur. Voilà. Pascal Thibault, un mot de conclusion, quelle est pour vous l'urgence?
Alors pour moi l'urgence c'est de ne pas oublier la douleur provoquée par les soins puisque ça a été un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé et le rôle en particulier des personnels infirmiers directement pour prévenir cette douleur puisqu'on dispose aujourd'hui de tous les moyens de le faire et aussi pour insister auprès des médecins pour ne pas faire des soins douloureux, y compris chez le très jeune enfant, puisqu'on mémorise toutes ces douleurs.
Pascal Thibault, Martine Chauvin et docteur Alain Séry, merci. Nous mettrons sur notre site internet RFI.fr dans la rubrique Priorité Santé toutes les coordonnées de vos associations et de vos travails de recherche. Demain, nous parlerons de la Sécu. Vous savez, ce système d'assurance maladie qui nous permet, nous en France, finalement, de pouvoir avoir accès aux soins. Est-ce que c'est toujours vrai? C'est ce que nous verrons. Vous pouvez dès maintenant nous faire part de vos questions, soit par email à priorité.santé@rfi.fr, soit par téléphone au 33 1 56 40 18 22. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé et à demain.
Vous souhaitez réécouter Priorité Santé? Rendez-vous sur notre site internet rfi.fr.